RFI, grand reportage.
Alexis Guilleux.
Bonjour à tous. Quelque part dans la steppe kazakh, trois astronautes ont fait leur retour sur Terre cette semaine, après 6 mois dans la station spatiale internationale ISS. Cela fait près de 20 ans que l'ISS tourne en orbite autour de la Terre, quelque part à 400 km au-dessus de nos têtes. Elle est habitée en permanence, à l'intérieur des expériences scientifiques qui sont réalisées, la Terre et ses bouleversements climatiques qui sont observés. Au sol, des équipes d'astronautes s'entraînent aussi au centre de la NASA à Houston, au Texas. C'est là qu'une équipe se prépare. Elle va partir cet été à bord de l'ISS pour une durée de 6 mois. NASA, quand des astronautes s'entraînent à sauver la station spatiale. Grand reportage de notre correspondant aux États-Unis, Eric DeSalve.
Alerte rouge dans la station spatiale internationale ISS, ou plutôt dans sa réplique terrestre de Houston, au Texas.
On vient de perdre le courant.
Nous sommes dans le centre spatial Johnson de la NASA. Dans l'un des immenses hangars ultra sécurisés du site, en combinaison bleue, trois futurs locataires de l'ISS, une américaine, un russe et un allemand, s'entraînent. Toutes les parois de la maquette taille réelle de la station spatiale sont couvertes de câbles et d'ordinateurs. C'est dans cet environnement que les trois astronautes vont bientôt devoir partager leur quotidien pendant 6 mois. En juin prochain, ils décollent dans une fusée pour l'espace, en orbite à 400 km de la Terre. Serena Onun Chancellor sera la seule femme à bord.
Jusqu'ici, nous nous sommes exercés sur une fuite toxique. Une substance s'est échappée des toilettes, ce qui est dangereux parce qu'elle contient de l'acide. Nous l'avons nettoyée. Ensuite, nous avons travaillé sur une brève dépressurisation due à une autre fuite, mais on ne savait pas où elle était. Donc, nous avons dû nous référer aux procédures pour localiser cette fuite.
Au programme des exercices ce matin-là, simulation de scénario catastrophe dans la maquette. Les astronautes doivent être prêts pour tout type d'avarie.
La fuite de ce matin, ça reste stressant, mais ça va, on a pris notre temps. Ça n'est pas la course, et Alex fait un super boulot, il coordonne tout en tant que commandant. Mais un feu dans la cabine, ça, c'est beaucoup plus effrayant.
Alex, c'est Alexander Gerst, spationaute de 41 ans. En juin prochain, il sera le premier Allemand à commander l'ISS pendant 6 mois. C'est aussi lui qui commande les exercices ce matin, en anglais et en russe. Cette fois, les trois astronautes font face à l'incident qu'ils redoutent sans doute le plus, le feu dans la station spatiale internationale.
Ok, je sens bien la fumée par ici. On appuie sur le bouton feu, ok? On déclenche l'alarme incendie.
Pour se protéger de la fumée, chacun doit enfiler un masque et trouver où sont les flammes. Au bout d'une vingtaine de minutes, l'incendie est localisé et maîtrisé. Alexander Gerst sort en nage de l'exercice.
Good, I'm very good. I'm a little bit sweaty and warm.
Ça va, je suis bien. J'ai chaud, je suis un peu transpirant, mais pour le moment, on a sauvé l'ISS, donc je ne peux que me sentir bien. En fait, on a coupé le courant. Serena a éteint le matériel informatique qui était en train de brûler. On a détecté le feu avec notre ordinateur en comparant les mesures de monoxyde de carbone dans cette zone, et c'est comme ça qu'on a su que ça brûlait. Après localisation, Serena a coupé le courant. Dans l'espace, en général, le feu s'éteint dès que l'électricité est coupée, parce qu'il n'y a plus rien à brûler. Ensuite, on a vu que les mesures étaient stables, donc le feu a été contenu dans le labo, il est maintenant éteint. Il y a une atmosphère enfumée dans le labo, mais ce n'est plus une urgence maintenant.
We're going to figure out the next steps, but that's not a quick urgency anymore.
En 2014, le spationaute allemand a déjà passé 6 mois à bord de l'ISS. Crâne rasé, fine barbe rousse, toujours le sourire, même après 10 heures d'entraînement. Alexander Gerst a été choisi par l'Agence spatiale européenne en 2009 parmi près de 5000 candidats. comme le français Thomas Pesquet, issu de la même promotion. C'est un ambassadeur de l'espace. Sur Twitter, où près d'un million de personnes suivent son quotidien, ce géophysicien de formation se définit comme un Européen de nationalité allemande, l'Europe qu'il a hâte d'admirer à nouveau depuis l'espace.
Quand vous vous réveillez dans l'ISS, vous ne voyez pas la Terre parce que vous êtes dans votre petite cabine. Il n'y a pas de fenêtre. Parfois, vous vous réveillez dans le noir et vous flottez dans l'air. Vous ne savez plus où vous êtes. Ça m'est arrivé plusieurs fois pendant les premières semaines de ma précédente mission. J'ouvrais les yeux le matin et je n'arrivais pas à y croire. Je me disais que c'était peut-être un rêve, que j'allais me réveiller et devoir aller à l'école ou je ne sais où. Je devais faire flotter des objets dans les airs pour réaliser au bout d'une minute que oui, waouh, je suis vraiment dans l'espace, c'est incroyable. Vous ne voyez pas la Terre en permanence. Pour voir la Terre, vous devez flotter jusqu'à une fenêtre. Et bien sûr, c'est incroyable. Dès qu'on peut, on jette un œil par la fenêtre panoramique, en forme de coupole, avec une vision à 180 degrés. On peut presque flotter dans cette fenêtre et on voit l'horizon des deux côtés. C'est absolument extraordinaire. Et à chaque fois que vous regardez la Terre, en bas, elle est différente. Même si on survole l'Europe plusieurs fois par semaine, à chaque fois, elle a l'air totalement différente. J'ai pris des tas de photos de Paris, par exemple. Elles sont toutes différentes. Les nuages, même la lumière et l'atmosphère changent. Je trouve ça vraiment fascinant. Et je ne me suis jamais lassé de ce spectacle.
Mais voyager dans un vaisseau spatial à 29 000 km/h en orbite autour de la Terre met le corps humain à rude épreuve. Au sol, les astronautes préparent donc leurs organismes à partir, mais aussi après 6 mois dans l'espace, à réapprendre à vivre sur Terre.
Recovering from it is also not easy, but it's a lot quicker. So I felt quite.
Récupérer, c'est pas facile, mais c'est plus rapide pour moi après l'atterrissage, grâce à tous les entraînements physiques que nous avons faits. On doit faire 2h30 de sport par jour. C'est assez dur. Mais grâce à cela, ma masse musculaire était encore bien développée après l'atterrissage. Donc j'ai pu marcher normalement. J'ai simplement dû travailler pour retrouver mon sens de l'équilibre. Ces dérèglements de mon corps, nous les avons utilisés pour la science.
So we have now an experiment on board, it's called Brain DTI, that looks at exactly that. They take
Nous avons une expérimentation à bord. Ils prennent des images IRM de mon cerveau avant et après le vol. Et ils se sont aperçus qu'être en apesanteur, c'est un peu comme avoir un arrêt cardiaque. Tout d'un coup, certaines parties de votre cerveau ne fonctionnent plus. Donc le cerveau doit s'adapter. Il s'adapte comme après un arrêt cardiaque. Dans mon cas, heureusement, c'est réversible. Au retour sur Terre, tout revient à la normale. Mais on peut étudier ce changement et le comparer aux réactions après une attaque. Et grâce à ces observations, on espère pouvoir développer des traitements et des systèmes de rééducation pour se remettre plus vite d'une attaque cardiaque. Donc beaucoup pourront tirer bénéfice sur Terre de ces recherches dans l'espace.
For having a brain recover much quicker after having a stroke. So a lot of people on Earth can actually benefit from that research in space.
Space Shuttle Columbia has been missing.
À plus d'un titre, voyager dans l'espace reste au péril. Steve Hart en sait quelque chose. Ce neurologue spécialiste en médecine spatiale fait partie de l'équipe médicale d'Alexander Gerst, médecin à la NASA depuis plus de 20 ans. À chaque départ, il garde en mémoire un souvenir douloureux, l'explosion de la navette Columbia, dans laquelle 7 astronautes ont été tués en 2003.
It would appear a catastrophic incident having happened there.
Quand on a perdu la navette Columbia, c'est le pire souvenir. J'étais l'un des médecins de l'équipe. Un jour vraiment tragique. Cela nous sert à nous rappeler que ce que nous faisons est sérieux. On ne peut pas baisser la garde. Il faut toujours penser à faire le bon choix, prendre la bonne décision et rester en sécurité.
Quelles sont les conséquences sur le corps humain d'un voyage dans l'espace ?
Quand vous êtes sur Terre, votre sang descend vers vos jambes. Mais quand vous êtes dans l'espace, tout votre sang remonte vers votre tête. Donc les gens ont des migraines, ils commencent à être bouffis du visage, les veines du cou gonflent, certains même perdent l'odorat parce que leur nez est congestionné. Le goût est altéré, mais ces symptômes se dissipent après la première semaine.
Tous les mercredis, vous avez une vidéoconférence médicale avec chaque passager de l'ISS, mais de l'espace, les astronautes vous appellent aussi à tout moment sur votre téléphone personnel.
It shows up on my phone, space. With an exclamation point behind it. Space is calling, so.
Oui, quand le mot espace apparaît avec un point d'exclamation sur mon téléphone, c'est que je reçois un appel de l'espace.
A guy in space. I gotta take this call.
Excusez-moi, il faut que je décroche. C'est l'espace.
Sometimes it's, can you go buy a present for my wife? She's mad at me. Or can you?
Parfois, ils appellent juste pour que je souhaite un anniversaire. C'est arrivé qu'ils me disent « Ma femme est en colère contre moi, est-ce que tu peux lui amener un cadeau de ma part ?» Mais en général, ils appellent au sujet de tests de recherche scientifique pour savoir « Est-ce que c'est OK pour moi de faire ça ?» ou « Est-ce que je devrais faire ça ?» Mais maintenant, le système marche bien. Ils peuvent appeler n'importe qui de l'espace, que ce soit pour souhaiter bon anniversaire ou prendre des nouvelles.
L'entraînement d'un astronaute ressemble parfois à un rêve d'enfant. Dans un planétarium de la NASA, nous retrouvons Alexander Gerst et ses deux coéquipiers américains et russes. Très à l'étroit, ils sont installés dans une capsule truffée d'électronique. Avec un joystick, l'équipage s'entraîne à manipuler le bras robotique de l'ISS.
C'est une des choses que nous aimons.
C'est fun.
Because it's a challenge for us. So what we're doing here is we're training how to catch space.
C'est un défi pour nous. On est en train de nous entraîner à attraper un cargo de l'espace. Un peu comme un cobra qui attrape sa proie. Nous avons un bras robotique canadien dans l'ISS. Et avec, nous arrivons à l'ISS, un véhicule cargo de ravitaillement en nourriture, vêtements et outils scientifiques. Le truc, c'est que tous les vaisseaux cargo ne peuvent pas s'arrimer tout seuls à l'ISS. Les cargos européens savent faire, mais les cargos américains nécessitent d'être arrimés avec le bras robotique. Et c'est à cela qu'on s'entraîne. Ce n'est pas simple, parce que nous avons deux manettes que l'on doit manipuler en même temps et tout bouge. Le véhicule cargo et la station spatiale bougent à 28 000 km/h. Nous devons nous adapter et la NASA nous change constamment le niveau de difficulté des exercices pour que nous soyons au point.
One after the other, they give us some easy runs, some difficult runs, and then for us to train our hand controller skills.
Pour les sorties extravéhiculaires, il faut apprendre à travailler en apesanteur. Pour recréer des conditions proches de la microgravité sur Terre, les astronautes s'exercent dans le laboratoire de flottabilité neutre de la NASA, autrement dit dans une piscine géante. 61 mètres de long, 31 de large et par 12 mètres de fond repose une autre réplique en taille réelle de la station spatiale. Les astronautes, dans leurs scaphandres spatiaux, s'y entraînent aux sorties orbitales sous l'eau pendant 6 heures sans interruption. Explication avec un autre astronaute allemand, Matthias Mauer, qui parle 8 langues, dont le français.
Dans cette piscine, les astronautes s'entraînent et ils apprennent comment travailler dans l'espace, au-dehors de la station. Et donc, ici sur la Terre, il y a la gravité et on ne peut pas négliger la gravité. Donc, il faut pratiquer sous les conditions les meilleures possibles et c'est sous l'eau. Sous l'eau, on flotte. Il existe encore la gravité, mais on flotte et on apprend comment travailler dans l'espace. Donc, il y a c'est un super moyen d'apprendre de réparer la station dans l'espace. La station, elle a déjà 15 ans, bientôt 20 ans. Et donc, c'est normal qu'il y a des appareils qui se cassent et qu'il faut réparer.
Au même moment, des ingénieurs testent dans la piscine la flottaison d'une capsule nommée Orion. Ce petit vaisseau spatial en forme de soucoupe volante en cours de fabrication est censé renvoyer d'ici quelques années des hommes sur la Lune et peut-être sur Mars. Un rêve pour Matthias Mauer qui n'est pas encore allé dans l'espace.
C'est spectaculaire, hein ? Oui, oui, la capsule Orion. Et bon, j'aimerais bien voler avec cette belle capsule, hein.
Pourquoi vous dites « j'aimerais bien voler là-dedans » ?
Bon, en général, pour voler dans la capsule Orion, parce que la capsule Orion, le but, c'est d'aller plus profond dans l'espace, vers la Lune et encore plus loin. Et donc, c'est le rêve de tous les astronautes.
Dans un autre hangar du centre de Houston, la capsule Orion, censée envoyer de nouveau des hommes et des femmes sur la Lune et même sur Mars, est en cours de fabrication par les scientifiques de la NASA. Dans ce petit cône de métal, impossible de se tenir debout, visite de l'intérieur de ce vaisseau lunaire de 16 mètres carrés prévu pour 4 astronautes, avec l'un de ses concepteurs, Jason Hutt.
Pour le lancement, ils vont rester allongés pendant 2 à 4 heures. Et une fois qu'ils seront en orbite, ils auront plus de place parce qu'ils pourront flotter en gravité zéro.
Combien de temps les astronautes vont-ils devoir cohabiter dans cet espace ?
Ça pourrait durer jusqu'à 20 jours. 20 jours dans ce qui n'est pas plus grand qu'un placard. Mais on veut renvoyer des humains dans l'espace profond. Et le vaisseau spatial doit être suffisamment flexible pour atteindre des destinations comme la Lune, Mars et même au-delà, dès que nous le pourrons. Notre premier vol test avec équipage aura lieu en 2022. En 2022, nous referons le tour de la Lune, comme Apollo 8 autrefois. Donc le premier vol retournera vers la Lune. Ensuite, à partir de 2023, on fera des vols tous les ans. Après, les projets de la NASA pour l'espace profond, c'est d'avoir une passerelle en orbite autour de la Lune. C'est une porte d'entrée qu'on utilisera pour envoyer les vaisseaux spatiaux pour des missions plus lointaines, pour aller sur Mars et peut-être même au-delà.
That is a waypoint that we will use for configuration of spacecraft for deeper space missions, going to Mars, going to asteroids, going anywhere beyond that in the future.
Depuis son lancement en 1998, l'ISS est habitée en permanence. La station spatiale a réussi la prouesse d'être pilotée par deux puissances rivales sur Terre mais alliées dans l'espace. Russie et États-Unis. Mais son avenir est aujourd'hui incertain. La Maison-Blanche ne souhaite plus financer ce programme scientifique très coûteux. D'ici 2024, Donald Trump envisage même de privatiser la station spatiale, préférant reprendre l'exploration.
Nous ne nous contenterons pas de planter notre drapeau et laisser notre empreinte sur la Lune. Nous y établirons une mission habitée pour un éventuel voyage sur Mars. Et peut-être, un jour, vers beaucoup d'autres mondes au-delà.
Aucune date n'est encore fixée, aucun budget arrêté, mais les nouveaux rêves d'espace des États-Unis semble désormais moins se porter vers l'ISS que sur la Lune et la planète Mars.
Oh, gravity. Damn, gravity. He keeps floating away.
Grand reportage au centre Johnson de la NASA à Houston, Eric DeSalve, réalisation Pierre Chaffanjon.
You'll be flowing.